de célébrer la dernière porte d'armoire vendue de ce côté-là, pour du côté des composantes, pour finalement voir effectivement en 2009, on était rendu à tout près de 500% de croissance du côté cuisine. Présentement, on est peut-être à 600, presque 700% de croissance du côté de la cuisine.
Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 204e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis et jeudis matin. Et en plus de Hypercroissance, sachez que l'équipe de G7 Media qui est derrière ce podcast produit également deux autres balados. Social Selling, un podcast 100% orienté publicité Facebook et Commercial est un podcast 100% orienté commerce électronique. Les liens sont d'ailleurs dans les notes de l'épisode si vous désirez y jeter un petit coup d'œil. Également, si vous cherchez un partenaire de croissance pour vos campagnes numériques afin de débuter l'année en force, venez discuter en direct avec moi sur LinkedIn. À chaque semaine, je discute avec des dizaines d'entre vous et les discussions nous amènent continuellement à trouver des nouvelles approches afin de faire croître votre entreprise. Il faut du courage pour acheter une organisation. On doit trouver des partenaires financiers, convaincre les employés qu'on est maintenant le capitaine à bord et finalement exécuter notre plan. Ce qui est encore plus impressionnant provient des pivots qui peuvent survenir lors d'un rachat. Daniel Drapeau, président de Miralis, est avec nous aujourd'hui pour nous expliquer l'histoire derrière le rachat de l'entreprise qu'il a acquise en 2007. 16 ans plus tard, l'entreprise possède maintenant une centaine de collaborateurs de plus et a généré plus de 500% de croissance durant cette période. Et tout ça en ayant pivoté le modèle d'affaires de l'entreprise. Avide de croissance, Daniel vient également nous expliquer ce que Miralis va faire prochainement avec le 45 millions de dollars qu'ils viennent de sécuriser en financement. Sans plus attendre, ma discussion avec Daniel Drapeau. Daniel Drapeau, vous êtes président et directeur général de l'entreprise Miralis, une société qui se spécialise dans la fabrication d'armoires, de cuisine et de salles de bain. Sous votre gouverne, l'organisation est passée de 160 à 270 collaborateurs, tout en connaissant une croissance de plus de 500%. Monsieur Drapeau, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci à vous, merci beaucoup.
Et Daniel, est-ce que ça serait possible pour toi de nous expliquer, avant de commencer l'entretien, plus précisément, qu'est-ce que Miralis?
En fait, nous, on est effectivement un manufacturier d'armoires de cuisine installé dans la région de Rimouski, à Saint-Anne-à-Clé exactement, depuis plus de 45 ans. On est une entreprise qui se spécialise dans la fabrication d'armoires, je dirais, d'inspiration européenne, plutôt contemporaine. On fait aussi d'autres types d'armoires, mais c'est principalement l'identité, le style qu'on veut amener sur le marché. On distribue nos produits au Québec, en Ontario et sur la côte est des États-Unis. Et on a 270 équipiers environ qui participent à la fabrication de ces cuisines-là. Je dirais que notre identité aussi est beaucoup orientée du côté de l'innovation, autant au niveau du produit que la manière de fabriquer, mais aussi la manière de mettre en marché nos produits.
Fantastique. Puis, je serais curieux maintenant de revenir un petit peu à la base, à la fondation du moment que tu as repris l'organisation, parce que ça s'est fait de manière assez inusitée. On en a parlé la semaine dernière ensemble, Daniel, mais j'ai pu comprendre que tu as voulu joindre l'entreprise, on te dit non. Tu as voulu rejoindre l'entreprise, on te dit non. Et ultimement, je pense que tu as rejoint Miralis. Comment tout ça s'est mis en place?
Ben, en fait, dans le monde des affaires, il y a beaucoup de reprises d'entreprises, la relève. Puis, on sait que c'est souvent un enjeu. On en parle beaucoup entre entrepreneurs. Puis, un jour, moi-même, je vais le vivre. Je suis déjà en train de préparer ça un peu. Donc, ici, on avait à Saint-Anne-à-Clé une entreprise qui a été fondée par Monsieur Lausier, qui était vraiment bien parti, le vent dans les voiles, beaucoup d'avenir, beaucoup de possibilités, qui avait besoin d'une certaine transformation éventuellement, comme toute entreprise. Et M. Lausier, dans la soixantaine, avait déjà une équipe, une partie de l'équipe qui était présente dans l'entreprise, puis il souhaitait qu'éventuellement cette équipe-là prenne la relève. Mais il lui manquait certains joueurs, donc à travers des contacts, moi j'ai un de mes amis qui a eu l'occasion de discuter avec lui, qui m'a mis en contact avec le monsieur. En fait, avant premièrement que moi je fasse le saut, il fallait que je me dise, OK, je suis prêt à laisser mon emploi. J'étais à Montréal. Moi, je viens de la région de Rimouski, mais j'étais à Montréal à l'époque. Puis je m'étais dit, OK, il faut, si je débute un processus, je me connais. Ça veut dire que là, je commence à partir de l'endroit où je suis. Puis j'avais quand même beaucoup de respect pour l'endroit où je travaillais. Donc, juste de débuter le processus, c'était déjà quelque chose d'important pour moi. Ensuite, pour M. Lozier, pour l'équipe en place, c'était une grosse décision parce que dans sa tête, j'ai l'impression que M. Lozier avait environ 2 ans, mais je le savais pas. Moi, il se donnait à peu près 2 ans pour tester sa relève et éventuellement prendre sa retraite. Donc, il m'a challengé beaucoup en processus d'entrevue. Ça a duré plus de 2 mois, presque 3 mois.
Oh, okay.
À travers toutes sortes de personnes que j'ai rencontrées, des consultants, l'équipe en place, lui-même plusieurs fois. Effectivement, il m'a dit non 2 fois. Moi, j'ai relancé. Puis, j'ai relancé en disant, hey, j'aimerais ça poursuivre. J'aimerais ça poursuivre le processus. Et je ne veux pas dire j'accepte pas le non, mais poursuivons. Puis finalement, je l'ai convaincu de poursuivre. La deuxième fois, c'était pas tout à fait un non, c'est qu'il me proposait un poste de direction des ventes. Mais moi, j'étais vraiment rendu à une étape où est-ce que je voulais réaliser mon rêve d'un jour devenir entrepreneur. Donc, je me disais, je voulais m'engager dans un poste plus polyvalent que les ventes. Donc, à force d'insister, à force d'avancer là-dedans, ben on en est venu qu'à avoir un handshake, on s'est serré la main, puis on a dit OK, on embarque dans une aventure. Puis finalement, ben j'ai déménagé de Montréal avec ma conjointe, avec mes enfants pour démarrer cette aventure-là chez Miralis.
Donc au final, tu as été capable de rentrer dans l'organisation, Daniel, et je pense que vous y travaillez 2 ans avant que l'ancien CEO fondateur commence à penser à un plan de reprise. Un plan de reprise qui finalement s'est fait très rapidement parce que je pense qu'il vous a donné 2 mois. Il a mis un prix sur la table pour le rachat d'entreprise et ça devait se faire très rapidement. Là. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est déroulé?
Ben, c'est à peu près comme ça, en fait. L'ancien CEO, le fondateur, avait en tête de quitter pour prendre sa retraite et donc de vendre son entreprise. Puis ça s'est passé au début 2009, autour du mois de mars. Où est-ce qu'il nous a rencontrés, moi et 4 autres personnes? On était 5. Puis il nous a dit, écoutez, je vais prendre mes vacances autour du mois de juin. Donc 2-3 mois plus tard, là, pas tout à fait 3 mois. Puis il nous a dit, j'ai l'intention de prendre mes vacances et de ne pas revenir. En fait, de prendre ma retraite en même temps. je suis à vendre, voici mon prix. Ben, en fait, il nous a pas dit le prix là, mais il nous a dit, je vais vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Vous pourrez avancer votre réflexion, mais j'aurais l'intention de vous vendre, à vous, à procéder à ce qu'on appelle un management buyout. Donc, que nous, les cinq employés, les 5 équipiers, on se regroupe pour faire le rachat de l'entreprise. Donc ça, c'est sûr que moi, sur le coup, j'étais content. Je me disais, OK, enfin, je vais pouvoir réaliser mon rêve de finalement devenir entrepreneur. Les 4 autres aussi, il y avait une certaine nervosité en même temps, un vertige qui s'installe. Mais ça s'est fait très rapidement. Moi, j'avais pas vécu d'expérience comme ça avant. Donc, que ce soit rapide ou pas, j'avais pas de référence. Donc, je trouvais pas nécessairement ça rapide, mais effectivement, c'était rapide. Il fallait donc débuter tout le processus de rechercher le financement puis passer à l'action.
Et ce qui est assez intéressant dans ce qui s'est déroulé, c'est que je crois que les lignes d'affaires, les produits vendus, ce que vous vendiez au moment où est-ce que le rachat s'est fait, ce n'est pas du tout ce qui représente la majeure partie de vos revenus aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu un certain pivot sur ce qui a été mis en marché, sur la commercialisation de tout ça. Un changement drastique entre les lignes d'affaires importantes de l'époque et les lignes d'affaires importantes aujourd'hui. Quel a été le diagnostic à l'époque de se dire, bon, on a maintenant l'organisation, comment qu'on fait pour la faire croître, on doit changer les produits. Quel a été le diagnostic et comment s'est déroulée la suite de tout ça?
On a, dans un processus d'achat d'une entreprise comme ça, il y a toutes sortes de vérifications diligentes qui se passent, d'analyses. On est questionné énormément. Donc, les banques, les partenaires financiers, les gens qui vont nous supporter là-dedans et même des psychologues industriels qui nous challengeaient pour être sûr qu'on était des bonnes personnes. Il y avait donc tous ces questionnements-là ont fait en sorte que nous-mêmes, on s'est questionné sur le modèle d'affaires de l'entreprise. Donc, en 2009, en passant à travers le processus, et en concluant un processus autour d'octobre, on s'est dit « wow, OK, on est maintenant rendu propriétaire de l'entreprise, mais on a réfléchi sur plein de choses, dont par exemple, quelle est vraiment la mission d'entreprise sur le long terme? Quel est le core business, on dit ça en anglais, en fait, le centre d'importance des affaires de l'entreprise? » Puis on s'est aperçu que, ben on s'est aperçu, on le savait, mais là on s'est aperçu qu'il y avait quand même une forme d'ambiguïté dans le marché qui faisait qu'on avait deux core business, deux lignes principales d'affaires, comme tu le mentionnais tout à l'heure. Puis, c'était d'un côté, on vendait des composantes d'armoires qui n'étaient pas nécessairement toutes finies. Ça pouvait être des portes en bois, sans nécessairement la teinture ou la peinture sur la porte, qu'on vendait, par exemple, à d'autres fabricants, des fabricants de meubles, des fabricants même d'armoires de cuisine. Et ça, ça représentait 70% de notre chiffre d'affaires. Donc, wow. C'était la majorité de nos revenus. Notre pain puis notre beurre, comme on dit, notre vache à lait. Puis, de l'autre côté, on avait 30% de notre business qui était des armoires de cuisine assemblées, en fait, toutes finies avec la finition, le vernis, la teinture, ou bien même des produits qu'on appelle aujourd'hui d'ingénierie ou synthétique, qui étaient donc vendus, assemblés par module à des clients différents. Donc, évidemment, d'un côté, on vendait des pièces à des ébénistes, parfois à des fabricants de meubles, d'armoires. Et de l'autre côté, on vendait les armoires toutes faites à des détaillants, des boutiques, des détaillants qui parfois compétitionnaient l'autre à qui on vendait les pièces. Donc, étant donné qu'on s'est fait beaucoup questionner là-dessus, ben nous-mêmes, on s'est questionné. Moi, j'aime bien l'innovation. J'aime bien challenger, en fait, les modèles d'affaires. Je me suis dit, de quel côté on a plus d'opportunités d'innovation puis d'opportunités de croissance? Puis on revenait tout le temps, plus on tournait en rond, plus on réfléchissait, on se disait, c'est vraiment du côté des cuisines qu'il y a plus d'opportunités. Mais c'est 30% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, puis l'autre représente 70%. Donc, comment qu'on s'y prend pour choisir le côté du 30% tout en ne risquant pas trop l'entreprise? Surtout qu'on vient juste de procéder à l'achat d'entreprise. On a beaucoup de pression sur les épaules. Là. On est en 2009 aussi, en plein milieu d'une crise financière aux États-Unis. Puis, en tout cas, il y a toutes sortes d'autres challenges qui se passent à ce moment-là. Mais on a quand même décidé d'aller de l'avant avec le modèle d'affaires des cuisines. Donc, on s'est dit, entre nous, on va se donner à peu près 10 ans. 10 ans pour faire atterrir tranquillement le modèle d'affaires qui représentait 70%, donc les pièces et composantes. Dans 10 ans, ben, on va peut-être célébrer d'avoir réussi à avoir éteint complètement ce côté-là de la business pendant que l'autre va devoir faire du 500, 600, 700% de croissance. Eh bien, ça s'est passé. On s'est retrouvé en 2019, exactement, puis on a célébré la dernière porte d'armoire vendue de ce côté-là, du côté des composantes, pour finalement voir, effectivement, en 2009, on était rendu à tout près de 500% de croissance du côté cuisine. Présentement, on est peut-être à 600, presque 700% de croissance du côté de la cuisine.
Et à quoi tu attribues cette croissance-là? Parce que c'est beau le planifier, c'est beau avoir une vision très claire d'une ligne d'affaires qui puisse peut-être changer considérablement notre organisation, ce qui a l'air d'avoir été le cas avec vous. Mais tout de même, par la suite, il faut exécuter le plan, il faut le mettre en marché, il faut aller les chercher, les clients. Quels ont été les déclics qui ont engendré cette croissance-là?
On s'est mis beaucoup de structures en place. Mais premièrement, une bonne vision, un bon plan stratégique. On a fait appel à des gens externes, des gens en stratégie pour nous aider à vraiment comprendre où est-ce qu'on allait se différencier. Puis l'innovation venait toujours. Les valeurs d'entreprise, l'esprit de famille, l'attitude positive. Des choses comme ça qui revenaient vraiment très fort dans notre analyse. Je me suis mis en place aussi un comité consultatif composé de gens d'externes, des gens du monde des affaires qui sont toujours, par exemple, il y avait deux CEO d'entreprise avec moi, des anciens CEO d'entreprise ou des gens aussi du domaine même artistique avec qui on faisait affaire, des influenceurs. C'est très intéressant d'avoir ce genre de personnes-là au niveau du comité consultatif. Ces gens-là m'ont challengé. Puis j'ai aimé ça me faire challenger. C'est dur, par contre, arriver dans ces rencontres-là. Puis tu ressors de là, en tout cas, moi, j'étais parfois fatigué de me faire challenger.
Plus d'énergie.
Par contre, le lendemain, ça revenait, puis je me disais, c'est bon, là. C'est excellent ce qu'ils m'ont dit. Et j'ai mis ça en place en 2011 environ. Puis je dirais que ça a fait une énorme différence. Évidemment, il y a toute l'équipe, c'est cliché, mais c'est pas cliché. C'est tellement important, bien s'entourer. Faire évoluer l'équipe. J'aime bien mélanger l'expérience avec la jeunesse, mettre ça en collision, si on peut dire. Donc, un beau mélange de personnes dans la vingtaine, début trentaine, avec des gens qui sont plus, disons, mon âge un petit peu plus. Puis tout mobiliser cette équipe-là dans un objectif commun. Il a fallu aussi bien évaluer nos marchés, savoir comment qu'on allait développer nos marchés au Québec. On a mis en place ce qu'on appelle un programme de partenaires privilèges, qui est un peu comme une espèce d'aéroplan élite là, de notre domaine. Donc, on a des partenaires privilèges, des boutiques partenaires qu'on sélectionne spécifiquement puis qu'on les amène à devenir, à avoir du succès avec nous dans nos différents marchés. puis on mesure aussi l'innovation. Donc, chaque année, on amène des innovations sur le marché qui font, puis c'est une promesse qu'on a vers nos partenaires. C'est en résumé, c'est ça qu'on a fait pour assurer une croissance année après année, puis on mesure la quantité de partenaires privilèges qu'on a, puis on vise tout le temps d'en avoir 10, 12, 15 de plus année après année.
Donc, en gros, une grande majeure partie de votre croissance se fait avec ce qu'on appelle un petit peu en anglais des channel partners. Donc, c'est eux littéralement qui vont faire la commercialisation. Et j'imagine, et corrige-moi si je me trompe, Daniel, ici, que vos équipes au final de développement à l'interne sont faites pour aller grandir ce nombre de partenaires. C'est ça qui doit faire un peu les gens au développement des affaires chez vous.
C'est exactement ça. On a un programme qu'on appelle RACE, qui est notre programme de développement de notre réseau de partenaires. Puis notre équipe de vente, notre équipe de marketing, mais aussi les équipes de production sont tous alignés pour offrir un produit de qualité avec en amenant de l'innovation année après année, en faisant évoluer l'offre de produits. Puis ce qu'on veut, c'est faire croître chacun des partenaires, les aider eux-mêmes à avoir de la croissance, mais aussi aussi faire en sorte qu'on ajoute des partenaires, toujours dans le respect de la situation géographique de chacun. Parce qu'on veut s'assurer de bien avoir une bonne couverture dans nos marchés, mais respecter la couverture, respecter les territoires de nos partenaires qui sont extrêmement importants. C'est eux qui nous permettent d'amener nos produits vers les consommateurs, vers les clients ultimement qui achètent nos produits.
Et j'aimerais en savoir peut-être un petit peu plus sur ce programme de partenariat-là. Quelle est son empreinte géographique? Au moment où on se parle, est-ce qu'on a davantage des partenaires qui sont installés dans la grande province de Québec? Est-ce qu'on a une empreinte qui est pan-canadienne? Est-ce qu'on a pensé explorer un petit peu le sud de la frontière?
Oui, bonne question. En fait, on a au total, on a environ 90 partenaires privilèges. Puis quand on a mis le programme en place en 2014, on en avait 20 environ. Puis ça, c'est intéressant parce que c'est comme un indicateur prospectif. Plus t'en as, puis il faut qu'ils nous rapportent un minimum de tant de dollars pour atteindre le statut de partenaire privilège. Donc, c'est une manière de dire si la quantité de partenaires privilèges augmente, ben automatiquement, on est capable de pas de garantir, mais d'assurer une certaine croissance. Évidemment, pendant la période de la pandémie, ça a été plus difficile d'obtenir ce genre de prédiction-là. Sur les 90 qu'on a actuellement, il y en a environ la moitié qui sont au Québec. Puis on a à peu près 20 qui sont au niveau de l'Ontario, un petit peu plus que 20. Puis la balance est aux États-Unis, en Floride, dans la région de New York. Donc, c'est assez bien réparti, je dirais, parce que notre chiffre d'affaires est réparti à peu près 50-55% Québec, 30% Ontario, puis la balance, donc un 20% environ aux États-Unis.
À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous satisfait de votre marketing numérique concernant l'entièreté de l'année 2022? Avez-vous été capable d'aller chercher cette croissance, voire même cette hypercroissance pendant l'année au complet? Si les choses n'avancent pas à la vitesse dont vous le voulez, sachez que J7 Media veut vous aider. En plus d'être une agence ayant géré 100 millions de dollars en publicité Facebook depuis sa fondation, le groupe J7 possède maintenant une offre beaucoup plus globale qu'avant. Notre équipe s'est agrandie et offre désormais des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Clayview. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour débuter l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com/HYPERCROISSANCE ou encore écrivez-moi en privé sur LinkedIn et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels ainsi qu'un plan de match personnalisé. De retour à l'épisode en cours.
Et vous pensez, au moment où on se parle, que peut-être la prochaine phase de croissance va s'orchestrer davantage le reste du Canada? Est-ce que c'est, vous voyez, un plus gros marché aux États-Unis ou peut-être même l'Europe?
Les États-Unis, c'est un marché énorme. On a encore beaucoup de potentiel là-bas, c'est sûr. On n'est pas, il y a encore beaucoup de possibilités de développement. Ontario aussi. Au Québec, on a quand même une bonne couverture en ce moment. Je trouve qu'aux États-Unis, on se concentre sur la côte Est parce qu'il y a quand même des enjeux de transport, de frais de transport, mais aussi de logistique, des enjeux qui peuvent être aussi au niveau des time zones, donc des heures de travail avec notre service à la clientèle avec nous. Mais ça, c'est pas des gros enjeux, mais on se concentre sur l'Est, puis éventuellement, on pourrait aller vers l'Ouest. On a justement un projet d'investissement là, qui nous permettrait un jour de répliquer ce genre, le genre d'usine qu'on est en train de mettre en place pourrait potentiellement être répliqué dans les marchés qu'on voudrait développer. Donc, une vision à long terme, mais qui est pas encore dans les plans, c'est plus une vision, pourrait être d'un jour avoir ce genre d'usine-là dans des marchés comme la Californie, comme l'Ouest canadien. On pense pas pour l'instant à l'Europe. Dans la vision, on n'est pas vraiment en Europe. On préfère observer l'Europe puis les voir comme des excellents compétiteurs. C'est comme des compétiteurs qui nous challenge parce qu'ils sont excellents dans le design, hein, design contemporain, moderne. Donc pour nous, plus on est capable d'être dans la même ligue que eux, plus on est fier puis on est fier de les compétitionner. Fait que pour l'instant, on prévoit pas aller dans les marchés de l'Europe.
Et bon, ça m'amène à l'autre point, tu l'as mentionné, il y a un financement que vous êtes allé chercher. Vous avez sécurisé près de 45 millions de dollars récemment, de l'argent qui, si on lit un peu le communiqué de presse, va être injecté pour la construction de nouvelles usines qui vont, encore une fois, on l'espère, accélérer la production. Ça faisait longtemps, je pense, que vous aviez en tête d'aller chercher un peu de capital externe pour, au final, accélérer la croissance de production de l'organisation.
Ah oui, ça c'est un projet qu'on a... que j'ai dans la tête, mais qu'on a dans la tête, là, je le partage avec d'autres personnes ici à l'interne depuis une dizaine d'années. Donc, ça fait environ 10 ans qu'on se promène dans le monde. On va à toutes les années, on va en Europe, en Italie, en Allemagne, où est-ce que le design est très avancé, mais où est-ce que les capacités de production, les facultés de production sont très avancées aussi. Puis, on réfléchit énormément en regardant comment eux ont réussi à aller chercher leur croissance, à consolider, à assurer une pérennité de leur entreprise. Puis, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de choses autour du design, autour de la capacité à innover dans la production pour l'automatiser. Petite anecdote, un jour, j'ai trouvé un magazine dans le chalet à mon père qui était meublé avec des vieux magazines des années 80. C'est un magazine qui était originaire de la France, puis ça s'appelait Art et Déco. Puis, il y avait plein de publicités là-dedans d'armoires de cuisine et de meubles. Puis je dirais que 80% de ce qu'il y avait dans le magazine était plutôt de style classique, avec beaucoup de moulures, beaucoup de bois et de teinture. Et le reste, la balance, c'était davantage des produits contemporains. Puis j'essayais de comprendre pourquoi c'était comme ça dans les années 80, mais aujourd'hui, ça semble plus être comme ça en Europe. C'est beaucoup plus contemporain, encore un peu de classique, mais beaucoup moins. C'est en analysant un petit peu plus le magazine que je me suis aperçu, j'ai compris en fait, en regardant le magazine, du 80% de ceux qui se spécialisaient dans le classique, tous les manufacturiers, tous ceux qui vendaient ce genre de produits-là qui étaient présents dans le magazine sont aujourd'hui, n'existent plus aujourd'hui. Tandis que le 20% qui se spécialisait dans le contemporain plus moderne, non seulement sont toujours existants, mais c'est eux qui ont pris les parts de marché et qui ont réussi à croître. Donc, on peut faire un lien entre le design, le côté intemporel aussi, le côté contemporain, le moderne va mieux vieillir dans le temps. C'est un peu difficile, ça. Ça pourrait faire le sujet d'un autre podcast même. C'est très complexe, mais il y a plus d'avenir de ce côté-là, de ce qu'on croit dans notre stratégie, et en même temps, ça nous permet d'automatiser. Donc l'automatisation est vraiment au cœur de nos préoccupations, puis tout le monde chez les réalistes le comprend, tous nos équipiers le comprennent, tout le monde dans toutes les industries ont des enjeux de main-d'œuvre aujourd'hui. Inévitablement, le secteur manufacturier doit s'automatiser, doit se moderniser, sinon on va perdre nos manufactures, on va perdre nos facultés de production ici au Québec. Donc, en se promenant dans le monde, en faisant ces analyses-là, on s'est dit, on va finalement, en 2021, on a décidé d'aller de l'avant avec notre projet d'investissement. Et c'est cette année qu'on est en train de le réaliser. On est en cours de construction de nos deux usines et on va recevoir la machinerie très bientôt.
Et bon, on a cette production-là qui va s'accélérer, qui va s'accentuer plutôt. Par la suite, c'est quoi les prévisions, les planifications sur la croissance? Parce que là, j'imagine que vous avez été capable de faire des scénarios, là. Si vous avez cette production-là qui s'installe, qui s'intègre avec une production actuelle qui est déjà assez massive, à quoi on peut espérer en termes de pourcentage de croissance, de prise de marché dans les prochaines années? Parce que là, ça va vous donner un avantage majeur sur vos compétiteurs, j'imagine.
Ben nous, en fait, on le voit comme on va augmenter notre capacité de production pour assurer des délais de production adéquats pour notre clientèle, nos partenaires, comme les boutiques partenaires, mais aussi pour certains projets, possiblement des promoteurs, des projets de multilogement, par exemple. On va avoir aussi, on ajoute via l'usine on bâtit une usine à Sainte-Anne-Clé à côté de celle actuelle qui va être très automatisée pour faire à peu près les mêmes produits qu'on a présentement dans l'usine, qu'on appelle l'usine 1. Mais on va aussi avoir une deuxième usine à Québec qui est en cours de construction aussi, qui, elle, va se concentrer dans les comptoirs. En fait, ça, des comptoirs de pierre de surface ultra compacte. On croit que c'est l'avenir. Ça aussi, ça fait une dizaine d'années qu'on observe en Europe ce qui se passe au niveau des tendances dans les comptoirs. Puis on voit qu'il y a une grande tendance vers les surfaces ultra compactes. Donc, on a décidé de bâtir une usine qui va exclusivement se concentrer sur ce genre de produits-là. Ça va nous permettre d'amener des nouveaux produits à notre réseau de partenaires, de boutiques partenaires, mais aussi dans des projets de multilogement, par exemple. Donc, on s'attend à ce que dans les 5, 6, 7 prochaines années, on pourrait doubler notre chiffre d'affaires avec ces nouvelles capacités de production-là.
On en parlait un petit peu récemment, Daniel. Je pense que vous avez une envie de rester très local au niveau de votre production, de où est-ce que vous êtes installé, tout en ayant une ambition et une vision internationale, pan-canadienne, comme vous l'avez dit. C'est un peu ça, j'imagine, le mantra. On garde nos emplois dans le Bas-Saint-Laurent. Vous avez mentionné un petit peu Québec aussi, où est-ce que vous vous êtes installé brièvement. Mais on veut et on a une ambition d'aller chercher un marché très large.
Oui, bien, on est super fiers de dire, nous, on fabrique nos propres machines. Il y a certaines machines qu'on fait nous-mêmes. C'est des machines qui rivalisent avec les plus grands manufacturiers de machines au monde. Tous ces cerveaux-là, les cerveaux au niveau du marketing, de la machinerie, la production, l'amélioration continue, sont ici, en fait, ici à Sainte-Anne-Clé. Puis on veut garder ça comme ça. Je crois en ma région. Je suis un grand fan de la nature. On engage des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui déménagent de Montréal pour servir chez nous, travailler chez nous. Puis c'est des gens qui aiment la région, la nature, ben évidemment, on est capable de les mobiliser à rester longtemps avec nous. Fait qu'on aimerait bien garder beaucoup de choses ici régionalement, mais croître avec peut-être d'autres usines, dont celle à Québec et peut-être éventuellement d'autres dans d'autres marchés, comme je le disais tout à l'heure. Mais garder un peu, si on pourrait dire, le siège social, tout le centre des décisions à Sainte-Anne-Clé, effectivement.
Aussi, Daniel, quand une entreprise grossit, les équipes grossissent, on le dit plus tôt, vous êtes passé de 160, je pense, collaborateurs au moment du rachat à près de 270 aujourd'hui. L'entreprise évolue, la croissance est au rendez-vous. Le rôle, habituellement, du dirigeant évolue également. À quoi ressemble une journée peut-être de travail aujourd'hui comparativement à ce que vous faisiez au moment que vous avez racheté l'entreprise?
Oh, je dirais qu'au moment du rachat d'entreprise, c'était beaucoup plus intense parce que je connaissais rien en production. J'arrivais du monde des télécommunications. J'ai un background en ingénierie, ce qui m'aide un petit peu quand même, mais pas tant que ça. Donc, les deux premières années chez Miralis ont été extrêmement intenses à apprendre l'industrie, apprendre la production, apprendre les rudiments. Ça a été toute une pente à gravir pour maîtriser certaines choses. Puis après 2 ans, je pensais que j'avais compris, mais en fait, j'avais rien compris. Je peux dire que ça m'a pris un bon 5 ans avant de dire, OK, là, je suis en contrôle, je suis en selle. Présentement, je suis plus dans un mode où est-ce que j'aime faire grandir les équipes, j'aime travailler avec des jeunes, les gens expérimentés autour de moi, faire beaucoup de coaching, amener l'équipe à grandir, à se développer, à devenir encore meilleur, parce que pendant que l'entreprise grandit, il faut que tout le monde grandisse, il faut que tout le monde suive. Il faut que les gens à l'interne suivent au même rythme que l'entreprise. Parfois, oui, on amène du nouveau monde de l'externe, mais notre but ultimement, c'est de faire grandir les gens qui sont déjà là. Fait qu'une journée de travail aujourd'hui est, je dirais, bon, peut-être un 25-30% du côté de la production, ben plutôt des opérations. Un bon 30-40% au niveau de la stratégie, planifier, faire avancer nos projets. Puis le reste, ben je le passe en équipe à faire du coaching, du mentorat, faire challenger les équipes pour s'assurer qu'on s'en va, qu'on poursuit notre stratégie, qu'on s'en va toujours dans la bonne direction, qu'on garde le cap sur la bonne direction, en fait.
Et bon, là, il y a de l'investissement que vous êtes allé chercher. Vous bâtissez les usines, vous continuez à grandir, vous continuez à augmenter votre nombre de partenaires. Si on regarde dans un environ 12, 24, 36 mois, à quoi ressemble le futur de Miralis?
Ah, c'est quand même assez clair dans notre tête. Évidemment, on souhaite que ça se passe bien. Il y a quand même un contexte économique plus difficile ou plus difficile à saisir en ce moment. Mais notre objectif, c'est premièrement, la première usine, celle des comptoirs de surface ultra compacte à Québec, sera prête à fonctionner et à opérer à quelque part au début de l'automne. Donc, on va commencer à faire de la production là. On commence déjà, en fait, à mettre en marché les produits à travers des facultés de production temporaire avec des partenaires qu'on a à Québec, qui sont très importants là-dedans. D'ici la fin de l'année, on devrait avoir démarré cette production-là pour vraiment avoir de la performance de ce côté-là en 2024. Pour ce qui est de l'usine de Sainte-Anne-à-Clé, on devrait, ce qu'on vise, c'est être fonctionnel, c'est que toute la machinerie, l'automatisation soit installée d'ici le mois de novembre, décembre. On va faire des tests du rodage. Et donc, en janvier, on devrait être capable de démarrer la production. Ce qui fait que là aussi, en 2024, on devrait être capable de prendre beaucoup de croissance. Fait que nous, on mise beaucoup sur l'année 2024 pour développer. L'année 2023 va nous servir à placer nos choses, à identifier des nouveaux prospects, des nouveaux partenaires privilèges, des nouveaux partenaires, faire grandir nos partenaires. On a mis en place un club du président qui va nous permettre de les motiver à croître et à avancer là-dedans. Donc, en 2024, croissance, 2025, on poursuit la croissance. Normalement, d'ici donc 3 ans, on devrait avoir nos 2 nouvelles usines à mi-capacité, à peu près à la moitié de leur capacité potentielle maximale.
Assez fascinant de voir que vous avez un plan si clair. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs devraient et devront écouter le podcast aujourd'hui parce que malheureusement, on manque des fois de vision en tant qu'entrepreneur et eux qui réussissent plus souvent qu'autrement de ceux qui ont un petit peu plus de difficultés sont des gens qui ont une vision claire. Parce que bien entendu, peut-être tout ne se déroulera pas comme prévu, mais au moins d'avoir un plan écrit, dit, j'imagine communiquer également avec le reste des employés, ça doit aider, là. Ça doit aider à rassembler les troupes.
Ouais, tout à fait. Il faut communiquer régulièrement. Puis on a des réunions générales avec tous nos équipiers, on communique régulièrement ce qui se passe, on est très transparent dans notre approche. Il y a des hauts et des bas là-dedans, ça va pas tout le temps exactement comme on le souhaite, mais c'est normal. C'est une vision n'est pas une ligne droite, c'est un chemin qu'on parcourt puis qui est sinueux parfois, mais si on n'a pas de vision, ben le chemin on le connaît pas, donc il sera pas sinueux, on risque de tourner en rond. Mais effectivement, beaucoup de communication, beaucoup de mobilisation est nécessaire là-dedans.
Des questions peut-être un petit peu plus personnelles maintenant, Monsieur Drapeau. Lecture, souvent les gens qui viennent sur le podcast nous disent qu'ils vont s'inspirer de certaines lectures pour améliorer des visions d'affaires, pour améliorer certains processus. Est-ce que c'est le cas de votre côté? Est-ce qu'il y a certaines lectures qui ont pu marquer votre imaginaire?
Je suis pas un grand lecteur. Pas du tout un lecteur de romans, par exemple. Je n'ai jamais accroché de ma vie dans ce genre de lecture-là. J'aime parfois lire certains livres qui a trait à la business, en fait, au monde des affaires ou connexes. Mais là aussi, j'ai tendance à sauter rapidement dans les résumés de livres. Il y a une forme d'efficacité, paresse ou peu importe, mais c'est on va l'appeler efficacité. Qui fait en sorte que je veux sauter rapidement en conclusion. Puis je me permets aussi de prendre certaines choses dans ces livres-là. Je peux penser, par exemple, il y a un livre qui m'a marqué, le livre « Good to Great » de Jim Collins, qui est vraiment intéressant. Je dirais que ça fait 10 ans, presque 15 ans que je travaille avec ce livre-là, mais j'implante une petite portion de ce qu'il y a dans le livre à chaque année, mais j'ai pas tenté de tout faire en même temps, c'est impossible. C'est ça que je trouve dangereux. J'ai comme l'impression que quand je lis trop de choses, je deviens mêlé. Donc, je préfère choisir ce que je lis. Puis, ce que j'aime bien aussi, c'est lire, m'informer sur l'actualité. Ça, c'est toutes sortes d'actualités. Ça peut être à l'international, ça peut être le monde des affaires, la science, la technologie. Pas l'actualité un peu plate, là, des drames qui se passent. Ça m'intéresse pas du tout. Puis dernièrement, j'ai eu la chance de suivre la formation à Vancouver avec une des banques avec qui on fait affaire. C'était vraiment intéressant. On faisait des études de cas avec des gens de l'Université Western en Ontario. Ça, j'ai beaucoup aimé les études de cas. C'était entre autres, par exemple, Tracy Edwards, qui est la première femme qui a fait le tour du monde dans une course en voilier avec un équipage entièrement féminin. Puis c'était vraiment fascinant. Son histoire, puis tout le raisonnement, son leadership, ses décisions. Ça, c'est des lectures qui m'intéressent beaucoup. On étudie son cas à elle, en fait, sous forme de lecture. C'est à peu près ça que je fais au niveau de la lecture.
Podcast, en écoutez-vous un peu?
Je suis pas un grand fan de podcast. Mais c'est pas une question de fan, c'est plus que, en fait, je vais choisir un sujet. Si un sujet qui m'intéresse, là, je vais chercher un podcast qui convient à mon sujet, puis je vais l'écouter. Mais je suis pas quelqu'un qui écoute des podcasts dans mes temps libres. Mais la raison de ça, c'est que je veux vraiment décrocher. je veux décrocher du travail, je veux décrocher du monde, de la réflexion un peu cérébrale. Fait que je me permets d'aller dans la nature beaucoup. Je fais des sports, je fais des activités qui sont quasiment méditatives puis qui me permettent de décrocher complètement. Les podcasts, j'en écoute, mais c'est quand j'ai choisi un sujet particulier.
Et parlons un petit peu peut-être pour terminer des activités personnelles, des routines. Vous avez parlé de nature un petit peu plus tôt, comme quoi que c'était un désavantage de l'endroit où est-ce que vous résidez, où est-ce que vos collègues sont également. À quoi ressemble un peu la routine avant, pendant, après le travail, peut-être même le week-end de Daniel Drapeau?
Ouais, mais pendant le travail, on a une structure très, très établie là, avec on a des scrums tous les matins. Toutes les équipes se rencontrent à tous les jours. On se parle. On a nos bonnes nouvelles, nos priorités, nos weekly, ou plutôt nos hebdomadaires, nos monthly, etc. Ça, c'est le rituel du travail. Le matin, j'ai pas de routine principale, mais j'avoue qu'en sortant du travail, par contre, je passe à d'autres choses. Je me change, puis je passe toujours à d'autres choses. Je m'en vais dans dans d'autres mondes. Donc, mes activités, je suis très manuel parfois. Je fais de la mécanique. J'ai bâti un chalet avec ma conjointe. Par temps perdu, mais c'est pas c'est beaucoup de temps. Là, donc, par les soirs, par les fins de semaine. Donc, comme je dis, j'essaie soit la pêche au saumon, des choses comme ça. Je fais beaucoup d'enduro avec mon fils. En fait, je fais des activités qui me permettent de me concentrer à 100%. Je fais toujours des activités ou presque qui me permettent pas de penser au travail. Parce que quand on fait de l'enduro en moto dans des endroits très escarpés, on peut pas penser au travail parce qu'on va se faire mal. Donc, c'est un peu particulier. Puis quand je pêche le saumon, ben si je veux avoir du succès, il faut que je me concentre sur ma technique, sur la lecture de la rivière. C'est pour ça que je dis que c'est presque méditatif, parce que je suis 100% concentré à quelque chose, puis j'aime bien passer du temps en famille, puis avec mes amis aussi. Donc, quand je sors du travail, je décroche.
Je décroche. Ouais. J'adore ça. Vous avez l'air d'être une personne très équilibrée, Daniel. Une belle entreprise en croissance, des activités qui vous permettent également de décrocher le week-end. Félicitations, c'est tout à votre honneur. Si on veut en apprendre un petit peu plus sur Miralis, peut-être vous avez des postes ouverts, peut-être vous êtes à la recherche de nouveaux clients. Quel est l'endroit le plus simple pour vous rejoindre?
Évidemment, c'est notre site web, donc www.miralis.com. On a toutes sortes d'informations là, sur notre site web qui nous permettent de comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on offre, où on peut trouver des boutiques partenaires, mais aussi de l'information par rapport aux emplois.
Fantastique. Daniel Drapeau, merci beaucoup d'avoir été sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Ce fut très fascinant et très intéressant. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, ce serait très apprécié si vous pouviez partager le podcast sur les médias sociaux afin de faire connaître le balado à un maximum de gens d'affaires possible. Également, je vous invite à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis, à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.